peut échanger. Mais d'ailleurs, ça a été un des points soulevés lors de la journée de formation des cordeaux, là. C'est que sur le REP+, c'est bien souvent les cordeaux qui s'occupent de gérer tous les remplacements du premier degré, quoi. C'est-à-dire de faire ils passent leur vie à faire des tableaux sur qui part en stage, qui est remplacé par qui, etc. etc. Et là, on leur a dit, mais il faut arrêter ça tout de suite, c'est pas votre boulot.
Ouais, c'est ça, c'est vachement parlant, là, cette histoire de quelles sont ses missions, et du coup, non, ça c'est pas les missions du conseiller PEDA, il est là, mais c'est pas sa mission, mais je travaille quand même avec la formation, la référente premier degré, parce qu'il faut qu'elle s'occupe de ça, c'est le flou des missions, pour le coup. Alors oui, c'est peut-être pas à elle de faire ça, mais c'est à qui et comment et...
En fait, moi, j'ai une double casquette. Je suis à la fois cordeau de REP, mais je suis aussi formatrice REP+, sur deux REP+. Du coup, je me sens... Ça me parle, ça. Mmh. C'est que sur l'organisation des formations REP+, le formateur REP+, est arrivé, c'est une nouvelle mission. Il est arrivé à un moment dans un paysage qui est déjà existant. Et du coup, il y a eu vraiment un gros flou là, entre le conseiller pédagogique, nous on a la DAFOR, ce qu'on appelle la DAFOR sur Paris, l'IEN et tout, et là je sens ce flou là. Et elle, j'ai l'impression qu'elle en pâtit un peu du coup. Non. En fait, c'est ça, c'est ce que disent les conseillers pédagogiques dans un sens, c'est qu'eux, ils avaient à s'occuper de toute la formation, les fameuses 18 heures de formation du premier degré, et on ne va pas leur en rajouter une couche maintenant qu'il y a la formation REP+, quoi. Ils ont déjà leur taf, enfin, c'est ce que moi j'entends. Hein. On a déjà notre travail sur les circonscripts, magistère, les formations lambda. Maintenant, vous êtes là, les formateurs REP+, ou les cordeaux, bah allez-y. Pas toujours, mais ils réagissent quand même un peu comme ça. Ce qu'on peut entendre, parce qu'ils ont, par rapport à leur charge de travail. Et du coup, là, c'est ce qu'on sent là dans ce texte.
C'est à la fois ça, et en même temps, marchez pas trop sur mes plates-bandes et me piquez pas.
On n'a pas les galons, comme dit Patrick.
Non, ça, je trouve ça très compliqué. Ouais.
Moi aussi.
Et du coup, ça fait le lien avec ce qu'elle dit sur ses missions. Ah bah oui, mais moi, cette année, les missions, elles ont changé. Cette année, je dois m'occuper de la planification, de la formation. La collègue, elle dit que c'est un réseau, il y a 9 écoles, elle dispose de 9 heures de décharge. Bah, je veux dire, une fois qu'elle a fait ses tableaux, quel temps il lui reste pour faire autre chose, quoi. Là, on voit bien quand même que même le CPC, c'est pas très clair, quoi. En gros, elle dit, c'est pas son boulot, mais il aide beaucoup. Mais enfin, si c'est pas son boulot, est-ce qu'il doit vraiment aider? Et moi, je sais qu'il y a des REP+, où les CPC, ils sont impliqués dans les formations REP+, quoi. Donc après, c'est aussi... Enfin, moi, mon IUN nous a dit, mais heureusement qu'on a... Quelque part, heureusement qu'on n'est pas REP+, sinon, ces PC, ils auraient implosé, quoi. Par rapport à leur charge.
Je me dis, mais évidemment qu'il y a des telles disparités entre les réseaux. Vous vous rendez compte du nombre de personnes dont on parle depuis le début, là, que ça dépend de l'IAIPR, du correspondant académique, du coordonnateur de l'IUN, du CPC, du directeur, des enseignants, des machins, etc. Maintenant, encore en plus, des partenaires en comité de pilotage, etc. Moi, j'ai le sentiment, mais moi, je suis peut-être je trouve qu'il y a des choses qui sont bien, qui sont faites. Quand tu parlais tout à l'heure de cet esprit positif, moi je l'ai senti vraiment avec l'arrivée du référentiel, la préfiguration REP+. J'ai senti un élan. Ah oui, punaise, c'est bien, on nous propose un peu une autre manière de réfléchir. Les enseignants se sont emparés les temps de concertation. On a défini que sur les 6 jours qui restaient, c'est 3 jours de formation, 6 jours dans le premier degré, il y aurait du temps pour la concertation entre les personnels, qu'il y aurait du temps pour le suivi des élèves en difficulté, nous c'est ce qu'on appelle les équipes éducatives ou les synthèses avec les RAZ, et les rencontres avec les parents. Chacun a bien géré son truc, machin, etc. Et au bout de 2 ans, il y avait déjà une dynamique qui avait commencé à se créer avec un groupe recherche action aussi avant. Donc on va dire qu'il y a eu comme un souffle pendant 2-3 ans, on arrivait presque à parler pédagogie naturellement. Et puis après, je ne sais pas ce qui fait que... Il y a un truc qui... Est-ce que voilà, des gens dont peut-être je fais partie, peut-être il y a des gens qui baissent les bras. Et puis après, voilà, les tensions, les enseignants, ils ne s'emparent pas les temps de formation. Ben oui, mais si on ne parle pas de quelque chose, d'un contenu, les priorités, elles changent tout le temps. On était parti sur production d'écrit, on a fait ça un an. Voilà, on part faire production d'écrit, mais on a quelqu'un de bien en maths qui peut venir faire maths. Bon, on va faire maths. Ah oui, mais on nous a demandé aussi de parler des élèves allophones. Tiens, si on faisait aussi un peu de parentalité, parce que c'est quand même écrit dans notre projet REP+, et on se retrouve avec des temps de formation, là je parle en tant qu'enseignante, où les enseignants, ils voient pas la cohérence générale. Mais je pense, est-ce qu'on est parce qu'on est trop, est-ce que du coup il y a trop d'intermétiers?
Mais moi, la question de la cohérence, elle s'est posée à la lecture du document quand elle évoque un catalogue de formation. Alors ça pose la question de comment tu repères les besoins de formation. Moi, j'ai déjà évoqué le truc. Si tu écoutes les enseignants, ils vont te dire qu'ils ont besoin de choses qui n'ont pas trop grand-chose à voir avec la pédagogie. Ouais. La communication non violente, éventuellement les actions de soutien à la parentalité, qui ne sont pas sur le cœur de la classe et sur ce qui peut, sur ce qui va prioritairement permettre la baisse des écarts de réussite. Ouais. Et si tu écoutes les pilotes, on va avoir d'autres besoins de formation qui vont être exprimés. Et là, on a le sentiment qu'en gros, chaque école a fait son petit marché. Nous, on veut l'évaluation bienveillante. Nous, on veut la production d'écrits. Et finalement, on va aller répondre à la demande au plus près du terrain. Alors, moi, la question que je me pose sur là-dessus, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux un cadre, mais qui peut être travaillé justement en comité de pilotage, histoire d'avoir une analyse un peu partagée des besoins, et d'avoir un cadre qui soit suffisamment clair pour les uns pour les autres sur on va former tout le monde à la même chose. Oui. Enfin, nous, on a une circonscription qui fonctionne comme ça. Les enseignants de cycle sont, sur toutes les écoles, formés à une même chose. On n'a pas un plan de formation pléthorique où on est sur des inscriptions au choix, mais il y a quand même des contraintes. Mais ça, je pense que ça favorise aussi la cohérence du tout. Si l'école intel travaille sur l'évaluation, quand l'école... Alors c'est bien, après tu me diras, si on a des temps, c'est le cas en REP plus pour mutualiser ensuite derrière tout ce qui a été bossé. Mais est-ce que ça se...
Ben non, c'est ça le problème.